affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour va nous conduire bien loin, dans un monde à la fois imaginaire et terrifiant, un monde qui explore certainement aussi certaines de nos peurs, un monde dans lequel l'humanité vit sous le joug effroyable de la bigoterie la plus échevelée. Plantons le décor, nous sommes en 2084, ou plus précisément dans les années qui suivent cette date. Et l'ancien monde a irrémédiablement chuté au terme d'une guerre dite sainte pour permettre l'émergence, bien évidemment, d'un nouvel ordre, d'un nouveau monde entièrement régi par une nouvelle religion dans ce monde-ci, baptisé Abistan. Les lois sont des lois régies par celles de Dieu. Le peuple, comme le régime, vénère une nouvelle divinité baptisée Yolla. Ce monde, bien évidemment, l'auteur en parle dans l'avertissement, est purement imaginaire, car tout est sous contrôle. Ce monde est né de l'imagination, mais aussi certainement du sens de l'observation de Boualem Sansal. Boualem Sansal qui est parmi nous. Boualem Sansal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici car votre roman, donc baptisé 2084, La fin du monde, vient de recevoir le grand prix du roman de l'Académie française. Vous êtes donc ici, chez vous, dans le studio de Canal Academy. Merci. Et je voudrais que vous nous éclairiez sur ce roman extrêmement riche, qu'on peut à la fois qualifier d'anticipation, de cauchemar, de fable, roman métaphysique peut-être aussi. Mmh. Qu'est-il et quel objectif poursuivez-vous? Comment un tel foisonnement vous est-il venu à l'esprit?
Alors, il y a deux aspects. Alors, je peux faire deux réponses à cette question.
Première réponse. Vous pouvez en faire autant que vous voulez.
Ouais, voilà. Une réponse un peu longue. Dans les années 60-70, m'est tombé sous la main un livre que j'ai dévoré en une nuit. C'était 1984 de George Orwell. Ce livre m'avait vraiment bouleversé. Et d'autant plus qu'il correspondait à ce que je voyais dans mon pays, c'est-à-dire s'installer doucement une sorte de dictature, un régime totalitaire. Et durant toutes les années qui ont suivi, une bonne vingtaine d'années, j'ai relu régulièrement 1984 et j'observais de ma fenêtre se mettre en place le système orwellien. Et je découvrais, je constatais avec étonnement à quel point George Orwell avait parfaitement décrit le fonctionnement de ces systèmes-là. Voilà. Là. 20 ans plus tard, j'ai vu arriver dans mon pays un phénomène nouveau qui finalement a fait s'effondrer le système d'explication orwellien, qui correspondait en fait à une situation de régime totalitaire, d'une dictature du type civil, laïque, militaire, des choses connues. Et là, on a vu arriver deux acteurs nouveaux. C'est Dieu, un Dieu, Allah, et son prophète. Et du coup, la mécanique orwellienne ne fonctionnait plus. Il fallait que quelqu'un écrive un jour, 2084, qui corresponde à ce schéma-là. Et j'ai attendu vainement que ce livre soit écrit par quelqu'un de plus de mieux versé que moi. Et puis la chose ne venant pas, je me suis dévoué et je l'ai écrit. Voilà. Et donc, alors, c'est quoi son titre? Moi, pour moi, c'est plus près d'un récit que d'une anticipation ou un roman apocalyptique. Tout ça. Mais c'est un récit. Je décris une réalité qui est déjà là. Qui est déjà là, tout simplement. Et évidemment, à partir de cette réalité que je vois, que nous voyons un peu dans le Daesh, en Arabie, en Iran, à droite à gauche, elle est là, en filigrane, elle se met en place. Et on imagine, on la voit évoluer vers une sorte d'intégration planétaire. La machine totalitaire est en train d'étendre de jeter des pattes un peu partout. Ça s'étend, ça fonctionne assez bien. Donc, petit calcul rapide, il y a 30 ans, l'islamisme n'existait pas. En 30 ans, il a conquis déjà à peu près le tiers, le quart de la planète. Donc on dit, bon, bah, dans un siècle, il aura conquis toute la planète. On se dit, est-ce que l'hypothèse est crédible ? Oui, parce que ce système est très dynamique et très intelligent. Il fonctionne comme un réacteur nucléaire. Il a une énergie interne qui le reconstitue, qui est fabuleuse. Elle n'emprunte rien à l'extérieur, donc elle n'est pas menacée d'extinction. Et en face, les systèmes qui pourraient s'opposer à cela s'affaiblissent, sont vieillissants, finissants. Ils vont, je pense, assez rapidement s'effondrer ou se mettre dans une position simplement de résistance. Ils pourraient résister longtemps, mais ça reste une position défensive. Voilà, donc c'est un jeu, évidemment. Je pars d'un récit, mais la suite est plus un jeu intellectuel qu'il faut maintenant valider. D'où l'intérêt d'avoir écrit ce livre, c'est pour le mettre en débat, pour entendre d'autres hypothèses. Les islamistes se reconnaissent très très bien dans ce livre. Ils disent oui, c'est ce qui va se passer. On œuvre à cela, et c'est ce qui va se passer. Voilà.
C'est donc une mise en garde, en fait.
Je me permettrai pas de mettre en garde qui que ce soit. Les lecteurs le lisent comme ils veulent. Ils peuvent le lire comme bah, c'est une blague, c'est un récit. C'est amusant, c'est intéressant à lire et sans plus. Hein. On serait mieux à se faire peur. Bon, comme on peut le lire effectivement comme un récit, c'est-à-dire que c'est peut-être déjà un peu tard. C'est un type d'action que ça demande. Comme on peut imaginer que c'est une mise en garde à long terme. Et en ce moment, on se dit, bon, ça va, on a le temps. On a le temps de voir venir.
Et vous pensez que nous avons le temps de voir venir ?
Moi, je vois ça, évidemment. Si je vivais en Europe, je serais plutôt optimiste. Je vois, évidemment, ce qu'est l'Europe. C'est une construction solide. C'est une construction solide. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date de plusieurs siècles. Elle est très solide, elle a des soubassements importants, des structures importantes. Et elle pourrait donc... En même temps, je constate qu'elle a perdu sa flexibilité. Elle est très, très rigide, elle réagit lentement, ce qui est le propre de toutes les organisations anciennes et solides. Hein, donc, elles perdent leur flexibilité. Mais moi, je vis dans un pays qui est... depuis toujours, pris dans cette machine religieuse. Et là, je vois aussi les possibilités de ce système. C'est remarquable. C'est très intelligent, c'est très efficace, c'est très flexible. Et ça fonctionne sur des principes qui lui donnent toutes les audaces. Dans la mesure où les gens considèrent que la mort est une gloire, c'est fini. On a tout pour vaincre. C'est une religion qui a une puissance d'attraction qui est phénoménale. On voit le pouvoir qu'elle exerce sur les gens, c'est une véritable hypnose. Et il suffit de peu de temps pour faire... on voit avec les convertis, quand on discute avec eux, 3 jours auparavant, c'était des gens normaux. 3 jours après, ils sont prêts à aller se faire exploser. Donc moi, je vis de ce côté-là. Donc je suis plutôt... je vois les choses sous cet angle-là.
Vous pensez donc que ce qui s'est produit en Algérie ces 20 ou 30 dernières années préfigure ce qui pourrait être un destin plus mondial ? Et c'est ça que vous mettez en scène dans votre ouvrage.
Oui.
Pour revenir à l'ouvrage.
Oui, absolument. Je vois que la chose s'installe. C'est déjà présent depuis toujours dans le monde arabo-musulman. Mais c'est en train de l'enjamber, de s'installer partout. Et on ne voit pas comment on pourrait supprimer cela. On ne voit pas. Ça ne peut qu'évoluer, quoi. On n'imagine pas que ça puisse rester en l'état. On n'imagine pas. Donc, c'est où ça régresse et sous quelle forme, sous l'effet de quel phénomène, on ne voit pas. La démocratie ne peut pas produire des systèmes coercitifs au point de Sauf on peut faire comme on a fait, comme le gouvernement français a fait en Algérie, durant la guerre d'Algérie, c'est donner à l'armée des pouvoirs de police, instituer un état d'urgence.
Ou le pouvoir algérien pendant la période de la guerre civile.
Ou le pouvoir algérien depuis, voilà, confier à l'armée des pouvoirs de police tout à fait ouverts, donc la torture, etc. On voit mal. Donc,
mais ça n'empêche, du reste, ça ne préserve que... le système politique et les apparences d'un régime laïque, mais si je comprends bien, tel que vous décrivez cette société en gestation, elle a d'autres moyens de conquête que la conquête du pouvoir politique.
Oui, ah oui, absolument. Oui, oui. Elle se diffuse comme l'humidité se diffuse dans un bâtiment. Ça passe à travers les murs. Bien sûr, ce sont des idées qui circulent. On ne peut pas les arrêter, on ne peut pas les enfermer, on ne peut pas les combattre avec les armes. Et on ne peut les combattre qu'avec des idées d'égale force. Et on n'est pas en mesure de produire des idées pouvant pousser les gens à aller se suicider, à aller se faire exploser, à donner instantanément leur vie et la vie de leur famille à leur idée. On n'imagine pas cela.
Parce que, à la lecture de votre livre, c'est un des aspects qui m'a le plus surpris et le plus intéressé, c'est que j'ai ressenti la description que vous faisiez de cette religion imaginaire, mais enfin, qui a beaucoup de traits communs avec le fondamentalisme islamique dans sa version la plus brutale, on va dire. C'est qu'elle est décrite comme une religion parfaitement nihiliste. C'est-à-dire que c'est presque le contraire d'une religion. C'est que ça a les apparences d'une religion, ça a les structures, les rites d'une religion, mais fondamentalement, c'est quelque chose d'absolument creux, vide, et volontairement creux et vide, et puissant parce que c'est creux et vide.
Mais absolument, ouais, c'est bien ça.
Mais comment peut-on l'emporter avec des idées pareilles ou des non-idées pareilles?
Mais c'est le principe même de toutes les religions, c'est d'arriver à la fusion, de la disparition de l'individu, sa fusion avec l'entité suprême, avec Dieu, avec... donc oui, c'est une abdication, en quelque sorte le rejet de son humanité, et de se couler dans cette vérité suprême, disparaître là-dedans, oui.
Oui, dans le néant.
Oui, absolument, oui.
Il y a quand même un aspect un peu régressif dans tout ça, et on le constate même quand on analyse les événements les plus récents, le parcours des kamikazes, même si je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, des martyrs, que sais-je, des assassins, des suicidés, des foudroyés, je ne sais pas comment les définir. C'est que, effectivement, comme vous l'avez dit, c'était des personnes assez ordinaires, des jeunes assez ordinaires quelques mois auparavant, oui, ça on en a la certitude. Mais est-ce qu'un tel nihilisme peut être séduisant à moyen ou à long terme? Ça me laisse un peu dubitatif.
Oui, c'est notre vision, notre façon de qualifier ces choses. Nous les qualifions, nous, de cette manière-là. C'est nihiliste, c'est ceci, c'est cela. Mais quand on les entend parler... Moi, j'ai passé toutes les premières années quand l'islamisme arrivait en Algérie, puis les premières violences ont commencé. Et donc, évidemment... je me suis trouvé des maintes et maintes fois à discuter avec des jeunes du quartier ou de ma propre famille, des amis aussi, de discuter avec eux. Ils ont leur vérité. Ils ont leur vérité. Ce que nous appelons nihilisme, et c'est ce que je leur disais, mais vous êtes dans une régression inimaginable. Mais c'est pour eux, c'est tout à fait l'inverse. Ils ont conscience et la certitude qu'ils sortent de la régression. Qu'ils sortent des ténèbres pour entrer dans la lumière. Et pour eux, nous sommes des êtres de ténèbres et nous nous complaisons dans ces ténèbres. Eux se considèrent comme étant sauvés. Ils parlent d'appel, ils disent « Allah m'a appelé ». Ils sont dans une dimension comme ça, extatique, qui pour nous était incompréhensible. Alors bon, on la qualifie de régression. Mais à un moment donné, on se dit que quand même, d'où tire-t-il cette force? Cette capacité aussi à se mobiliser pour la communauté, parce qu'il aussi développe des sentiments qu'on voudrait bien avoir dans nos sociétés. Par exemple, la solidarité, des choses comme ça, la fraternité des groupes et tout ça, toutes choses qui, dans nos sociétés, ont un peu disparu ou sont très, très tièdes. Ils arrivent à développer comme ça des choses absolument extraordinaires. Alors, s'ils restaient à ce stade, ce serait à la limite très bien. On les appellerait islamistes modérés, ce serait sympathique. Mais c'est qu'à un moment donné, ils passent le Rubicon, ils sont dans la phase où leur religion ne leur suffit pas, il faut détruire celle des autres. Et donc, comme ils ne peuvent pas détruire les religions, et ben ils détruisent l'autre. Voilà, en supprimant les individus, on supprime leurs croyances, on supprime leurs dieux, leurs prophètes, leurs... moi, je pense que c'est ça, la véritable régression. Ce qu'avant, c'est des idées qu'on peut avoir, et on les a généralement à 18, 20 ans, on passe par ces phases d'un peu
d'exaltation. Mais c'est ce que je veux vous dire, il y a un côté punk quand même, hein.
Oui,
il y a un côté no future.
Ouais, voilà, comme ça. Et ensuite, ils rentrent, ils passent dans une... Alors, mais pourquoi ? Moi, je pense que c'est parce qu'ils passent de la phase, on va dire, tout à fait individuelle et sentimentale, comme ça, et puis ils rentrent dans une organisation. Et là, l'organisation, évidemment, les dépouille de tout le libre-arbitre, de toute capacité de penser par lui-même, et donc il devient un guerrier, et on en fait une machine de guerre, une machine de conquête, il ne s'appartient plus. Voilà. Et c'est pour ça, vous le disiez tout à l'heure, le vrai danger ne vient pas de ces gens-là, ne vient pas de Daesh, enfin des gens qui sont sur le terrain, qui sont là, qui avancent, qui tuent. Bon, à un moment donné, on va les arrêter, et puis c'est fini, quoi. On va les anéantir, et la question est terminée. Mais c'est la force qui est derrière qui les pousse. C'est celle-là. Et alors, cette force vient d'où ? Il faut identifier l'origine de cette force. Alors, dire comme on le fait souvent... On dit oui, bon, ça vient de l'Arabie, le Qatar, ça reste aussi un instrument de quelque chose, évidemment. Donc c'est identifier cette force, ces idées. Alors, est-ce que ça vient du Coran ? Parce qu'on dit, c'est des discussions qu'on a. Je trouve regrettable et malheureux qu'on ne puisse pas discuter du Coran en France. Ça paraît tout de suite comme étant islamophobe ou ceci ou cela. Alors qu'en Algérie, on en discute très librement. On dit, est-ce que le Coran est comme ça ? Ou est-ce que la lecture que nous faisons aujourd'hui du Coran, et c'est celle-ci ? Parce que probablement, moi je me rends compte que sur les 30-40 dernières années, les gens lisaient le Coran différemment. Ils le lisaient comme... on va dire, on lit une posologie, quoi. Voilà, c'est pour se désangoisser, pour... c'était lu comme ça. Et puis aujourd'hui, c'est lu comme... un
programme.
Oui, voilà, un programme politique, voilà. Et voilà. Et donc, du coup, ça formate l'esprit différemment. Alors, est-ce que c'est... un de mes amis, un grand intellectuel tunisien, Youssef Sedik, a écrit un livre qui est extraordinaire, que tout le monde devrait lire réellement, qui a pour titre « Nous n'avons jamais lu le Coran ». Nous n'avons jamais lu le Coran. Parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que réciter le Coran. Il y a ceux qui le récitent, donc les musulmans qui l'apprennent par cœur à l'âge de 5-10 ans, et toute leur vie le régurgitent en récitant comme ça, assez bêtement et assez mécaniquement. Et ceux qui ne sont pas musulmans, finalement, le lisent de la même manière. C'est pas dans le sens de le réfléchir ou de... ça sert de contre-argumentaire à quelque chose, quoi. Donc on va chercher des contre-arguments et constate que au cours des siècles, on a fait des lectures très différentes du Coran. On a fait des lectures, à certaines périodes, des lectures très mystiques. On allait donc au-delà de l'historicité de la chose, du prophète, au-delà même de la divinité. On allait quasiment dans un absolu qui dépasse Dieu lui-même. Et puis on
donc, était un peu derviche, quoi.
Oui, voilà, ouais. Ce qui a donné d'ailleurs un peu le courant soufi. Qui, eux, ne s'arrêtent pas pour le Coran, les califs comme les autres, le prophète, bon, c'est un monsieur comme les autres, aucune importance, c'est même pas la peine de s'arrêter à cela. Ils sont dans un... Et même Dieu n'est plus qu'une extase, il n'est pas une vraie... Enfin, une réalité.
Une entité, oui.
Oui, voilà. Et puis ensuite, on a fait des lectures pendant la colonisation. Le Coran a été lu comme un programme politique. Voilà comment, comment se libérer. Voilà comment faire la guerre aux colonisateurs, aux chrétiens, et se libérer, recouvrer son identité. C'est devenu une affaire identitaire, quoi. Et je crois. Voilà, et aujourd'hui, il semblerait qu'on le lise d'abord comme ça en petits morceaux, on ne le lit pas en entier, on lit surtout la partie de Médine, qui est plus... parce qu'en fait, il y a deux courants, et le courant meccois écrit durant la période où le prophète était à la Mecque. Bon, là, c'est très, très religieux, très théologique, c'est très spirituel. Parle de la relation entre l'homme et Dieu et l'existence de Dieu, etc. Et puis, il y a la période de Médine, où là, le prophète n'était plus le prophète, était un chef d'État, un chef de guerre, un négociateur, un homme rusé, un homme politique. Et donc, et là, on le voit bien dans le courant, hein, on voit bien ces changements-là, c'est très, très, très sensible. Et donc, on lit surtout cette partie-là, et puis comme elle est intégrée déjà dans des programmes géostratégiques, politiques, les manipulations des uns et des autres, et bien évidemment, ça alimente la machine. Il faudrait qu'on puisse aider à d'autres lectures du Coran. Alors, il y avait un homme qui a beaucoup œuvré à cela, mais c'est Mohamed Harkoun, le grand islamologue, j'allais dire islamophobe, le grand islamologue.
Professeur, n'aggravez pas votre cas.
Hein. Oui, oui, c'est assez grave déjà. Qui était prof à la Sorbonne pendant une trentaine d'années, il est mort il y a quelques années, et il avait essayé évidemment de réfléchir à tout ça, et de proposer d'autres façons d'investiguer, proposer d'autres voies. Une voie intéressante, c'est de lire par exemple le roman, comme le Coran, comme... Ben, une œuvre littéraire, déjà, lecture littéraire de la chose, c'est très intéressant. Donc, ça fournit une autre vision des choses. Il était pour une lecture critique du Coran, donc sur l'aspect historique, l'aspect histoire, l'aspect littérature, etc., etc. C'était très intéressant. Il a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Malheureusement, il était lu et apprécié que des intellectuels, c'est-à-dire capable d'accéder à ces textes qui seront extraordinairement complexes. Il faudrait pouvoir refaire le même schéma en mettant à la portée de tout le monde. Hein.
En vous écoutant, je retrouve quelque chose qui affleure à certains moments dans votre ouvrage, dans votre roman. C'est que l'un des antidotes à cet univers totalement totalitaire et sectaire semble être le recours aux traditions, aux identités ancestrales, aux choses héritées en quelque sorte. Parce que là, ça brise un peu nos catégories. C'est-à-dire qu'avec nos yeux d'occidentaux un peu modernes, on a un peu le dire, l'islamisme fondamentaliste, c'est l'archaïsme. On serait presque tenté de dire que c'est la tradition. Vous nous expliquez que c'est le contraire, que comme tout système totalitaire, c'est quelque chose qui détruit les traditions, qui sort les hommes de leur milieu naturel et de leur histoire pour ensuite mieux les maîtriser. Est-ce que vous pouvez développer cette idée? C'est-à-dire que la tradition, les identités, finalement, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, ce serait un antidote à cette entreprise totalitaire? En lisant votre livre, on a envie de trouver des antidotes, je vous le dis.
Oui, oui, mais oui, j'en offre quelques-unes. Le personnage Toz, par exemple, qui essaie de reconstituer, qui a construit un musée et qui essaie de reconstituer le XXe siècle, évidemment est l'antidote de... mais c'est vrai, c'est que lorsque la nouveauté nous menace, il y a des nouveautés qui sont bienveillantes et bienfaisantes. On le voit dès le début, on le sent bien qu'elles apportent un progrès. Donc on est partant là-dessus. Mais certaines nouveautés, on voit bien qu'elles sont dangereuses et qu'il faut rapidement mettre le holà à cela. Et je crois que pour faire mettre le holà à cela, c'est de s'arc-bouter sur les traditions, sur ce qui a déjà réussi, ça c'est une certitude. Donc il faut constamment revisiter la tradition Et l'actualiser, évidemment, si on retourne à la tradition avec l'esprit traditionnaliste, c'est pire, il vaut mieux accepter la nouveauté, même si elle est dangereuse. Donc il faut revisiter la tradition et l'adapter au contexte, parce que c'est l'antidote. C'est l'antidote, en tout cas ça met un contrepoids à notre peut-être propension naturelle à aller vers la nouveauté ou à nous laisser aspirer par elle. Voilà, il faut constamment faire une lecture renouvelée de la tradition. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, c'est ce que fait par exemple Tos dans son musée. Il a construit un musée, puis il a rassemblé plein de choses qu'il ne connaît pas. Il aurait pu rassembler un truc comme celui-ci, bon, sans savoir à quoi ça servait dans le temps. Comme nous-mêmes, nous retrouvons des objets, on ne sait pas à quoi ils pouvaient servir à l'époque. Mais peu importe, mais si on ne sait pas, on peut imaginer et leur donner un sens nouveau. Ne serait-ce qu'un sens abstrait, faire de quelque chose qui était un instrument de liturgie, en faire un objet de décoration aujourd'hui, ben c'est pas mal, même si on a perdu le côté liturgique. Mais ça aussi, on ne le fait plus, on a tendance à un peu, et c'est surtout vrai dans les sociétés comme ça, archaïques et religieuses, à sacraliser la tradition. Prendre un côté sacré, dans le monde musulman, on ne touche à rien. Pas touche, où que vous mettez le doigt, il faut respect, grand respect, total respect, il ne faut pas toucher à la chose. Et il faut pouvoir rediscuter la tradition pour que la nouveauté, qu'on ait un instrument de validation de ce qui est nouveau. C'est-à-dire c'est bon ou c'est pas bon.
Oui, en revanche, dans ce système-là, toute tradition populaire, ou nationale, familiale, doit être absolument arasé. Ouais. L'autre trait assez intéressant, c'est que ce nouveau régime, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer spontanément, n'est pas obsédé par le passé. Il a peur du passé. Mais en revanche, il n'a pas du tout peur de l'avenir. Donc on est une sorte de nouveau, je ne sais pas comment l'appeler, de messianisme, ouais. Qui se construit sur la négation de tout ce qui est hérité.
Oui, absolument. Ce genre de régime installe l'humanité dans un présent permanent, parce que le dictateur, la seule chose qu'il peut contrôler, c'est le présent. Le passé ne lui appartient pas. Donc soit il le réécrit, il en tire un autre récit qui lui donne la légitimité, hein. Donc il peut dire qu'il est le fils de Dieu, etc. Donc inventé, ou alors c'est carrément effacer le passé dans la mesure où il ne le maîtrise pas. Et il n'a également aucune prise sur l'avenir. Et donc, il l'efface également. Il interdit de le penser. Et il fait du présent un présent éternel. Il couvre tout le temps, depuis le temps zéro jusqu'à le temps infini. C'est l'éternel présent, donc c'est quelques vérités qui sont immobiles, figées, mais ça l'oblige à ne rien changer, parce que le moindre changement donnerait une idée on dira avant, il y avait avant, il y avait après. Donc il faut que tout soit statique, donc il faut que les gens s'habillent de la même manière et tout le temps, il faut qu'ils parlent de la même manière et tout le temps, il faut qu'ils mangent la même chose et tout le temps, c'est ce qu'on montre dans le roman. C'est comme ça qu'on donne à la permanence du présent sa réalité. Rien ne doit bouger.
Il ne faut pas non plus d'ailleurs.
Surtout pas. Oui, parce que l'ailleurs, évidemment, on a envie d'y aller, hein, donc on se met au mouvement. Et si on se met en mouvement physiquement, on se met aussi en mouvement intellectuellement, et donc c'est dangereux. C'est le drame, où je ne sais pas comment il faut qualifier ça, c'est la nature même des systèmes totalitaires. Il faut absolument qu'ils occupent tout l'espace, comme l'air a tendance à occuper tout l'espace qui s'offre à lui. Ils occupent le passé, l'avenir, et le présent, ils le simplifient à l'extrême, mais s'ils pouvaient en faire un point, ils en feraient un point.
Je vais me faire l'avocat, non pas de Yola, mais du diable. Cette vénération du présent permanent, est-ce que ce n'est pas aussi un trait juste simplement de l'ensemble de nos sociétés contemporaines ? Auparavant, on valorisait beaucoup la tradition dans les sociétés, voilà, dans les sociétés traditionnelles. Par définition, on est tourné vers les traditions. Dans les sociétés plus progressistes, on est tourné vers un horizon à venir, un projet à construire. Aujourd'hui, tout ça s'est un petit peu essoufflé. On est quand même encalaminé dans ce présent. Est-ce que ce n'est pas aussi ça notre faiblesse face à ce type de projet ? L'absence de notre moteur, c'était les lendemains, qu'ils chantent ou pas.
Alors ça, c'est...
Il n'y a plus rien.
Oui, absolument. Ça, c'est un autre aspect du roman. C'est retourner le raisonnement qui est développé là pour cette, on va dire, cette civilisation et nous l'appliquer à nous-mêmes. Nous sommes probablement aussi dans un système totalitaire qui se met en place. Les systèmes totalitaires se mettent en place toujours un peu à notre insu, à l'insu des gens. Hein. Sinon, les gens s'en apercevraient rapidement et réagiraient, tant qu'au début, ils ont encore un peu d'intelligence et de libre arbitre. Donc ça se met en place toujours à l'insu des gens. Oui, on peut penser cela, et beaucoup le pensent. Hein. Beaucoup de philosophes le pensent très sérieusement. C'est la fin des temps. Ils parlent de la fin des temps. On est dans une civilisation qui est arrivée au bout. Qui est arrivée au bout. Et donc, elle s'arrête. Elle ne peut plus se projeter dans l'avenir. Elle en a peur. Elle le refuse. Et puis, le passé, bon, c'est pas aussi... Elle devient un peu passéiste, mais juste comme ça pour se rassurer. Mais sinon, elle s'ancre en réalité dans un présent qu'elle essaie de rendre éternel. C'est assez inquiétant. Alors, je crois que ça aussi, c'est une fatalité. Hein, parce que quand on est à 7 milliards et puis bientôt 10 milliards, et que les ressources de la nature s'épuisent... Il faut évidemment des systèmes coercitifs pour maintenir ce minimum d'ordre dont on a besoin pour vivre. Et donc, et l'ordre, et ben, c'est une construction et c'est une ingénierie complexe. Pour l'obtenir, il faut jouer sur plein de choses, la politique, la culture, le truc, le ci, le ça, le temps, tout retravailler pour que l'ordre se maintienne. Et c'est pour ça, au début, je vous disais que... cet univers-là religieux, donc emprunté un peu à l'islam, au monde musulman, lui, il est encore de... Son réacteur interne fonctionne, à plein régime. Donc, lui, il est capable encore de construire un nouveau monde. Mais en face, nous, on est dans une situation où... On est un peu lourd hein, dans notre... on ne sait pas comment réagir à cela et on est totalement désarmé. Et la crainte, c'est que, un peu ce que disait Mao Tse-Tung, quand le fioul est inévitable, détends-toi et profites-en. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être un peu presque tenté d'adhérer à... je crois que les gens... Moi, je l'ai vu en Algérie. Dans les années 60-70, nous étions un pays socialiste, communiste, donc on était vraiment très loin. Mais nous, la religion, ça se résumait en une phrase. Hein. La religion, c'est l'opium du peuple. Voilà, c'est tout. Et puis la question était close.
C'est un peu faible aussi, quand même.
C'est un peu faible, mais bon, ça nous... on s'en consentait à cette époque. Et puis on a vu un phénomène de basculement qui ne s'explique pas. Ou alors, il y a quelques explications. Il y a l'usure. À force d'être matraqué, on dit, bon, après tout, si c'est pour avoir la paix, il faut aller à la mosquée, il faut faire ceci, pourquoi pas, allons-y. Donc un peu par usure. Par peur aussi, parce qu'à un moment donné, ces systèmes deviennent dangereux. Donc par peur. Mais il y a aussi des basculements très curieux. Moi, j'ai vu... par exemple, c'est drôle, c'est un mal qui a surtout frappé les grandes intelligences. Les gens qui étaient super formés, qui avaient vécu, des gens qui ont fait leurs études en France, aux États-Unis, qui ont une longue expérience professionnelle, tout ça, qui ont basculé là-dedans. Je ne sais pas, comme si c'était une... Je sais pas, une révélation, comme ils prenaient conscience que tout ce qu'ils avaient fait avant, ça peut plus rien produire, qu'il est peut-être temps de prendre pied dans cette nouvelle aventure qui paraissait exaltante, enfin la violence n'était pas encore là à cette époque, qui paraissait exaltante et tout ça, ils sont passés de l'autre côté. Donc c'est ça, oui. Il y a aussi qui, le fait qu'on puisse à un moment donné passer de l'autre côté un peu comme ça, soit par fatigue, soit par peur, soit par... parce qu'aussi on découvre un certain attrait, il y a quelque chose qui relève du syndrome de Stockholm, parce que... d'ailleurs, les islamistes nous traitent un peu comme ça, hein, je veux dire, comme des otages. Donc, ils voient bien que nous sommes des otages. Et que peu à peu, on va adhérer à leur thèse parce qu'on est dans une position pris en otage. Voilà, c'est l'expression, être pris en otage. Et ça, je l'ai bien observé en Algérie. C'est pour ça qu'à un moment donné.
Alors, vous qui avez refusé de vous laisser prendre en otage, parce que nous n'avons pas décrit votre parcours, je ne vais pas vous demander de le faire, parce que, parce que c'est difficile de se tresser ses propres lauriers, mais il y a un moment où, dans votre existence, vous basculez dans une forme de résistance, qui n'est pas armée, bien entendu, mais vous décidez notamment de prendre la plume pour cela, si j'ai bien compris, et pour décider à faire entendre un autre son de cloche, qui est, de façon un petit peu plus intime, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça bascule à quel moment? Est-ce que c'est progressif? Est-ce que c'est soudain? Ce refus de se laisser dicter ses comportements, sa façon de penser, chez vous?
En tout cas, dans les pays musulmans, c'est différent. La question se pose en France d'une autre manière. Dans nos pays, l'islamisme, c'est quelque chose qui traverse nos familles. C'est son frère, c'est son épouse, c'est son père, son voilà. Donc on ne regarde pas ça de la même manière. Ce n'est pas au départ, ce n'est pas un danger. Quand on voit son frère, son jeune frère aller à la mosquée, bon, on trouve que c'est bête, mais sans plus quoi. Et ainsi de suite. Donc on est très vite l'islamisme est à l'intérieur de la maison. Et donc, quand on est dans la position où je suis, on a tendance à s'isoler. On se dit, on est des démocrates. Et c'est le raisonnement que nous tenions avec mes amis. On en parlait, ils racontaient comment leurs enfants ou leurs parents ou leurs amis avaient basculé. Et ils se posaient la question, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est des démocrates. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur droit. Et donc on était conciliants, tolérants, et nous n'avons jamais opposé la moindre opposition à la chose. Si ce n'est peut-être tenter quelques explications au début. En disant, écoute, franchement, mais t'es ridicule, tu crois à ces choses-là. Et puis la réaction pouvant être un peu violente, hop, on dit, bon, écoute, de toute façon, tu crois ce que tu veux. Bon, moi, je dis ça comme ça. Hein. Et voilà, on est donc. Alors, on est, à un moment donné, dans une position de solitude. On ne cherche plus une solution collective, mais une solution individuelle, là. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on est... toute sa famille est islamiste. Qu'est-ce qu'on fait? On les rejoint pour maintenir le lien familial. Ou on joue le jeu, la comédie. On abandonne. Voilà. Question très difficile, très, souvent très humiliante aussi. Alors chacun y apporte la réponse. Beaucoup, par exemple, émigrent. Ils disent, voilà. Cette nouvelle réalité, je ne l'accepte pas, je m'en vais. Ils émigrent, et ainsi de suite. Donc, moi, avec un certain nombre d'amis, parce qu'en Algérie, cette phase-là a duré très peu, 2, 3, 4 années, et puis c'est passé très vite à la violence. Donc, la problématique a changé. Parce que là, c'est devenu une question de vie ou de mort. Et la question de et la mort pouvant vous être donnée par votre propre fils. Le nombre de gamins qui ont égorgé leur mère, leur sœur, leur père, ça ne se compte plus. Et l'inverse. Des frères, l'un est islamiste, l'autre policier, qui se dévorent. Quoi. On s'est trouvé... on a changé d'angle de vue. C'est pas se battre contre l'islamisme, cette idée régressive, etc. Et voilà, on s'interrogeait comment. Non, il fallait se battre contre la violence. Voilà, c'est, et là, on n'est plus dans la philosophie ou dans la religion, on est dans la politique. Donc nous, qu'est-ce qu'on disait ? Eh bien, entre la peste et le choléra, choisissons le choléra, soutenons l'armée. L'armée, elle, c'est pas une armée républicaine et des démocrates, elle a les moyens de les vaincre, elle va les exterminer. Donc on a fait ce qu'on fait, ce que les coalisés font en ce moment en Syrie. On s'allie à Daesh, au régime syrien, qu'on dénonçait la veille. Aujourd'hui, c'est notre meilleur ami. Voilà, parce que l'ennemi du moment, c'est Daesh. Et donc nous, on dit, ben, soutenons l'armée. Et on est sortis dans la rue pour manifester. Nous sommes montés devant le ministère de la Défense. On était 500 000. Le lendemain, on était 1 million. Le troisième jour, on était 1 million et demi. Et il faut arrêter le processus électoral. Ces gens-là vont nous tuer tous. Et ils vont vous tuer. Et ensuite, on a essayé de vendre cette idée à l'étranger. Au gouvernement européen, en leur disant, si l'Algérie tombe, ça ne tardera pas pour vous atteindre. Ça prendra 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais ça vous atteindra. Et on écrivait partout en faisant passer ce message. Bon, on a soutenu l'armée. L'armée n'attendait que cela, évidemment. Elle a même manipulé. Parmi nous, il y avait des gens aussi qui manipulaient dans ce sens-là. Donc il y a eu une alliance comme ça, contre nature, mais une alliance. Et l'armée est intervenue et elle a fait une guerre abominable, en notre nom. Une guerre abominable pour écraser ces gens. Et bon, maintenant le choléra est là, hein, donc il faut aussi maintenant se guérir du choléra. Mais ça, c'est une autre paire de manches, elle se fait avec d'autres moyens. Mais eux-mêmes, maintenant, ils font un contre-jeu. Ils ont un truc sur l'islamisme, si on les embête trop. Voilà, ils ouvrent la boîte, l'islamisme repart. Donc voilà, ils nous terrorisent avec cela. Voilà, vous restez tranquille, sinon, il n'y a pas de raison. Nous, on va aller. Voilà la situation. Et donc je me suis retrouvé dans ce groupe où on militait. Je ne sais pas, il y a plein de choses qui me déplaisaient souverainement dans cette façon de faire. Je préfère un combat plus individuel. C'est comme ça que je me suis mis à écrire mon premier roman, Le Serment des Barbares. C'était une réflexion sur la violence. Parce que je crois qu'aussi, il y a une sorte de religion dans la violence. D'ailleurs, les religions. Au fond, au départ, la religion, c'est la théorie de la violence. Hein. Évidemment, c'est la violence divine, la violence de la création. Et donc, voilà, je voulais réfléchir à cela. La violence des hommes, comme à un moment donné, elle échappe aux hommes pour devenir une entité vivante. Une entité vivante, elle est là. Et elle utilise les gens comme moyen de se réaliser. Elle atteint un niveau comme ça où elle devient vivante. Car réellement, elle devient vivante. Elle est là, elle n'est plus socialisée, elle ne fait plus partie de la société, elle dépasse la société, elle existe.
Elle n'est plus un instrument, mais elle est une fin en soi.
Une fin en soi. Et on devient ses instruments. Et puis, c'était une réflexion sur cela. Et puis en liaison avec l'histoire, parce que bon, enfin, c'est un roman compliqué. Donc,
je ne l'avais pas cité au début, c'est donc aussi un roman de combat. Il y a de très belles pages sur le rôle de la langue, justement, pour résister à ce type de système et la façon dont une langue simplifiée, reconstruite, peut enfermer, ouais. Et comment elle peut être également un instrument de libération, probablement.
Oui, en tout cas, la langue nous donne cette capacité d'approcher la complexité. Parce qu'avec trois mots, on ne va pas très loin dans la compréhension du monde. Donc il faut avoir une maîtrise très, très, très large de la langue. Et là, évidemment, chaque mot créant dans notre cerveau des connexions incroyable. Donc, ça met de la complexité dans notre cerveau. Et donc, là, ça améliore notre capacité à comprendre le monde. Ça ne veut pas dire que notre compréhension du monde, que nous l'utiliserons forcément dans le sens du bien. On peut l'utiliser dans le sens du mal aussi. Hein. Mais bon, c'est là, à un moment donné aussi, il faut... C'est une question très complexe, parce que si on le... C'est ce qu'on fait un peu avec les enfants. Quand les parents éduquent leurs enfants, ils ne leur apprennent que les bons mots. Alors on dit, non, ça c'est des gros mots, il ne faut pas leur dire. Mais on est en train de les atrophier. il faut qu'ils aient tous les mots. Parce que la vie n'est pas divisée, n'est pas divisible. Quand on sort, elle n'est pas divisée. Bien, voilà, la rue du bien et la rue du mal, non, c'est partout. Donc il faut avoir tout le vocabulaire et tout le...
Oui, un des rares moments de respiration dans l'ouvrage, c'est lorsqu'un des personnages se souvient d'une chanson un petit peu paillarde qui pastiche un des versets qu'il doit psalmodier quotidiennement sous ce régime. Vous pensez qu'un langage parfois un petit peu leste, un parler populaire, peut être une façon de s'évader des réalités totalitaires?
Oui, absolument. Oui, il faut. Il faut améliorer notre connaissance. Nous n'existons que par la langue. Hein, donc, dans toutes ces dimensions, bien sûr, la langue, le vocabulaire, la langue, la grammaire, la syntaxe et tout ça, mais toutes les langues physiques, la façon de le comportemental, etc. Et on doit avoir une maîtrise complète de la chose. Donc ça nous permet aussi bien d'aller dans le sens du bien, enfin le bien pour nous, qui n'est pas forcément le bien pour les autres, hein, pour nous, et puis qui nous permet aussi de comprendre le mal et de l'éviter, de le contourner, de le redéfinir, c'est assez relatif ces choses-là. Une chose est mal aujourd'hui, et puis l'homosexualité c'était le mal suprême l'année passée. Hein. Bon, aujourd'hui c'est une chose normale, c'est pas encore bien, mais c'est une chose normale. Là. Donc il faut avoir tous les instruments, parce que c'est ça la responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut aussi bien avoir l'arme du bien et l'arme du mal. Et puis ensuite c'est à nous de décider... laquelle nous utilisons. Parce que sans la responsabilité, on n'est pas efficace. On ne peut pas être efficace. Si on n'a que les éléments du bien, on agit comme ça, de manière mécanique. Mais si on a les deux instruments, on fait les choses plus intelligentes, en tout cas de manière responsable. Et on a besoin de responsabilité.
Dans votre ouvrage, il y a... Dans cet univers pourtant extrêmement verrouillé, puisque on ne sait pas si c'est exact ou non, mais enfin, il y a même des êtres un peu magiques qui appartiennent aux services de sécurité qui pourraient presque scanner les pensées. Bon, c'est pas très facile d'échapper à un tel système. Toutefois, il y a des grains de sable, et peut-être plus simplement la nature humaine. Le personnage, un des personnages principaux, finit par avoir une fêlure interne simplement parce qu'il a un doute. Et ce doute, c'est le début d'une pelote qui va le mener évidemment extrêmement loin tout au long d'un périple. Est-ce que finalement, c'est peut-être pas aussi cela l'antidote à ce type d'initiative? Le doute.
Oui. Doute. C'est le. Oui, souvent, des lecteurs me disent c'est un livre très pessimiste. Je dis non, c'est au contraire, c'est un livre très optimiste. Les systèmes de totalitaires, ils sont innombrables sur Terre et on est constamment menacé par ces choses-là. Mais il y a toujours la capacité, à un moment donné, de comprendre qu'on est pris dans un piège et commence ensuite, évidemment, le processus thérapeutique. À partir du moment où on voit quelque chose qui dénote, notre attention est attirée, et puis le questionnement, puis arrive le doute. Le doute méthodique, ensuite, avec question-réponse, la révolte au bout. Donc c'est très optimiste. Moi, je trouve, au contraire, ce livre très optimiste. Et je passe d'ailleurs mes journées à dire aux gens, enfin, à répondre à cette question, livre pessimiste? Non, livre optimiste. Je crois que... Parce qu'au fond, peut-être qu'il suffit qu'une personne se révolte pour que l'humanité puisse à un moment donné se révolter. Quoi. On n'a pas besoin de se révolter tous. Quelquefois, une petite lumière suffit pour amorcer des mouvements d'ensemble. Voilà, c'est... Et puis on ne sait pas où ça peut naître. Je vous dis pas, l'humanité, elle est née où ? Bon, on raconte que c'est en Afrique, hein, quelque part. Mais quand, comment ? Ben, on ne sait pas. Mais c'était un grain, quelque part, chez un individu, un singe. Pas tout un troupeau, un. Et petit à petit, ça a amené à un mouvement d'ensemble.
Vous terminez l'avertissement qui se trouve en tête de votre livre par... Dormez tranquille, bonnes gens, tout est parfaitement faux et le reste est sous contrôle. Nous avons compris que rien n'est sous contrôle, mais les adversaires ne contrôlent pas davantage la situation.
Oui, je crois que oui. Eux-mêmes, ils sont dans un processus. Hein, donc, ils essaient de le contrôler, mais peut-être qu'ils ne le contrôlent pas vraiment aussi. Hein, ils leur échappent. Je pense que ceux qui sont derrière l'islamisme regardent assez la création de Daesh. Parce que ça cause du tort à leur stratégie qui est une stratégie de conquête douce, religieuse.
D'imprégnation.
Voilà, d'imprégnation. Et là, ça attire l'attention. C'est, pour eux, c'est très dangereux. Quoi.
Si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs français, francophones, disons français, puisque on peut pas donner des conseils aux Algériens qui connaissent le problème beaucoup mieux que nous, lequel serait-il ? Collectivement, individuellement, comment réagir à cette tentative d'imprégnation, justement ?
Moi, je suis, de ce côté-là, je suis un peu très proche de Michel Onfray. On a un peu cette tendance à vouloir chercher des solutions, à nous adresser à des groupes, des partis politiques, ou pour nous offrir des solutions, enfin, des menus. Quoi. Non, c'est à l'échelle individuelle, chacun dans son petit coin, et se construit sa petite démarche. Et puis, et voilà, l'océan est fait de petites gouttes.
Voilà. Merci beaucoup, Bolem Sansal.
Merci.
Je rappelle les références de votre ouvrage 2084, La fin du monde, qui, nous l'avons compris, n'est désormais pas sûr, par Bolem Sansal, édition Gallimard, la célèbre collection Blanche, bien sûr, roman qui a donc repris et qui a donc reçu le grand prix du roman de l'Académie française, ce qui est amplement mérité, fût-ce au simple regard de votre amour et de la façon dont vous prenez la langue au sérieux.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Thank you.